Merci beaucoup, merci Anne de cette belle réflexion que tu nous as donnée sur, en effet, la nécessité qui nous est faite d'être plus performants dans cette compétence de lecture, hein, ça c'est clair. Je me disais en même temps, je me permets d'ouvrir des champs nouveaux. Bien évidemment que ce que nous appelons la lecture dans nos activités de professeurs de lettres ne se réduit pas à l'activité littéraire et à la compétence de compréhension qui lui est éminemment liée. La lecture, c'est aussi toute la rencontre avec l'aventure humaine, les humanités, dont tu as aussi très très bien parlé. Et je me disais, au fond, nous n'éviterons peut-être pas, et ça pourrait être passionnant, le moment où, vous voyez, quand, dans tout ce champ didactique, et c'est très utile, hein, nous réfléchissons à, on emploie les verbes intransitifs, comprendre, interpréter. Je disais, mais comprendre, oui, mais du point de vue d'un élève de collège, qu'est-ce qu'un élève de collège a besoin de comprendre ? C'est-à-dire que nous n'éviterons peut-être pas un moment de réfléchir ensemble au contenu. Qu'est-ce que nous avons à dire à nos élèves à travers tout ça ? Non pas que nous ayons une vérité à dire, mais et je crois que les nouveaux programmes nous invitent à réfléchir, puisqu'ils essaient modestement de cadastrer un certain nombre de choses que nous aurions peut-être bénéfice à dire pour remonétiser toutes ces compétences de lecture et les réarticuler au sens. Et au risque d'être un tout petit peu provocateur, je me demande si, au fond, il ne faut pas que nous fassions attention, puisque nous sommes tous de bons lecteurs, professeurs de lettres que nous sommes, à la façon que nous avons d'idolâtrer la lecture. Au sens où il me semble qu'une expérience littéraire forte peut se passer de la lecture. Et que nous ne laissons peut-être pas aux élèves cette chance, aux élèves qui ne sont pas bons lecteurs, d'avoir une expérience littéraire forte qui, dans un deuxième temps, peut les ramener à la littérature. J'en donne un exemple. J'étais comme inspecteur général du théâtre cette année avec des élèves d'un lycée professionnel à Avignon. Et ils ont vu cette magnifique mise en scène de Jean Bellorini, Les Frères Karamazov. Aucun d'eux n'a lu les deux pavés des Frères Karamazov. Et pourtant, ils ont fait, j'étais avec eux le lendemain, une expérience littéraire forte, et ils connaissent Dostoïevski, ils connaissent les Frères Karamazov. Et je me dis, au fond, est-ce que nous laissons dans nos pratiques de classe de la chance à des expériences littéraires fortes, qui pourraient peut-être faire qu'il y ait un avant et un après, pour ces élèves-là, il y avait un avant et un après, et qui permettraient dans un deuxième temps de récupérer au bénéfice de la lecture, mais de ne pas considérer qu'a priori, tout élève qui ne lit pas n'a pas une voie d'accès à des expériences de type littéraire. Et je pense que c'est aussi ce que disent les nouveaux programmes quand ils essaient, non pas de marginaliser la littérature, bien sûr, loin de moi l'idée de vous dire ça, mais de laisser au professeur de ménager la chance d'un film. Après tout, il y a du narratif dans les films, la chance d'autres types de supports. La littérature n'a pas le monopole des contenus de sens que nous avons peut-être à proposer à nos élèves. Et je crois que c'est peut-être quelque chose à quoi nous devons réfléchir. Ne pas idolâtrer la lecture comme seul canal d'accès à la littérature et à ce que la littérature vaut pour nous, c'est-à-dire un réceptacle de valeurs et d'expériences humaines fortes. Il me semble qu'il y a un impensé scolaire de nos pratiques de professeurs de lettres qui peut parfois être bloquant pour nos élèves. Et je suis sûr, je l'ai vu par exemple, c'est pour ça que je donne cet exemple, des élèves de lycée professionnel passionnés par les Frères Karamazov. Et si on avait voulu les amener aux Frères Karamazov et à la lecture des Frères Karamazov, ça n'aurait jamais pu passer. Et en fait, c'est passé par le canal d'une mise en scène. Et bien sûr, c'était important. Donc des expériences littéraires fortes à ménager à nos élèves avec des textes riches. Et le point de vigilance sur lequel je pense qu'il faut que nous soyons tous attentifs, c'est de faire attention à ce que personnellement, moi, je trouve comme une sorte de parasitage de tous ces beaux efforts, qui est l'aléatoire des textes. Souvent, parce que nous travaillons en séquence, et c'est très bien, nous proposons à nos élèves des textes un peu aléatoires. Et je pense que les élèves qui n'écoutent plus grand-chose, mais qui ont assez d'oreilles pour savoir la nécessité que nous mettons à ces textes que nous leur proposons, ben ils voient que les textes que nous leur proposons ne sont que des prétextes à manipulation, à prélèvement, comme l'a très bien décrit Anne, et qu'ils ne sentent pas qu'il y a une nécessité comme une urgence. Et je pense qu'il faut que, professeurs de lettres, dans les temps qui sont les nôtres, nous soyons préoccupés, j'ose pas dire obsédés, de la nécessité, au sens où Rilke, dans Lettres à un jeune poète, parle de la nécessité d'écrire, et que nous ne fassions pas défiler devant eux, sur un mode d'inventaire, des textes qui peuvent être parfois l'objet de curiosité. Mais l'attractivité n'est pas, je crois, la même chose que la vérité. Et nos élèves, ils ont besoin d'être reconnectés dans la démarche de connaissance à une quête de la vérité. Alors la vérité, elle n'est pas une, et nous ne sommes pas des gourous pour la leur donner, mais il faut qu'on les remette en dynamique de recherche de la vérité. Je prends un exemple, en sixième, on étudie les monstres. Si on fait un petit grottement de texte, un peu folklorique ou un peu patrimonial, simplement pour faire défiler quelques monstres un peu fun, voyez, avec d'ailleurs le goût que la modernité a, et ça m'agace parfois pour le premier cycle, de mettre, je dirais, la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de proposer des monstres plutôt sympathiques, et ça va être les gentils qui vont être monstrueux, en jouant à déconstruire au second degré pour des élèves qui parfois ont besoin de reprendre. Vous voyez, on trouve des chaperons rouges où finalement le loup est très sympathique et c'est le bûcheron. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Je crois qu'il faut qu'anthropologiquement, nous donnions le temps de ne pas prendre, c'est un magnifique thème en sixième, le monstre. Mais vous imaginez que les élèves en sixième, ils ont rencontré la monstruosité. Parfois, ils la vivent dans leur vie, ils savent bien. Et je pense qu'il faut que l'étude des monstres, alors en sixième, ce ne sera pas comme en première, elle doit être à la hauteur de la question à laquelle les textes que nous allons leur proposer renvoient. Et je pense que c'est un souci, je pense que nous pourrions un jour faire une autre demi-journée en prenant cette fois les entrées des différents programmes, les questions existentielles, et voir au fond, voilà, comprendre, mais qu'est-ce qu'un élève d'école primaire ou de collège a aujourd'hui, dans l'urgence presque, besoin de comprendre. Et il me semble que je voudrais juste lancer une piste, qui est peut-être d'ailleurs une façon pour nous de remobiliser cette nécessité et cette valeur humanisante des textes littéraires que nous leur proposons. Il me semble que c'est anthropologiquement, nous avons besoin de restaurer un rapport heureux à la loi, hein, parce que nous héritons de deux décennies d'après 68, où pour nos élèves, la loi est un peu dans l'air ambiant. La loi, c'est quelque chose qui contraint notre liberté. Hein, et je pense souvent à cette phrase de Lévinas, l'homme est serf, S-E-R-F, esclave, est serf par la nature et libre par la loi. Et je pense que nos élèves d'aujourd'hui qui ont beaucoup de mal avec la loi, et ils ont besoin de retrouver non pas simplement le règlement extérieur qu'il leur faut appliquer, mais retrouver dans notre discipline qu'il existe des lois humaines. Et je pense aussi au très beau livre de Jean-Pierre Lebrun qui s'appelle « Des lois pour être humain ». Hein, où la mythologie, à quoi ça sert de lire des textes mythologie, à quoi ça sert de lire l'Odyssée, à quoi ça sert de lire ces textes-là, si ce n'est que pour entrer dans un certain nombre de lois. La tragédie aussi, ça sert à ça, de voir comment un certain nombre de lois s'imposent et que quand on ne veut pas les entendre, on va à la catastrophe. Et qu'il y a, pardonnez-moi ce gros mot, comme une sorte de sagesse possible, hein, qui peut être motivante à tous les niveaux, pour un petit élève comme un plus grand, de découvrir que dans les textes littéraires, quand ce qui ne sont pas simplement aléatoires, folkloriques ou simplement patrimoniaux pour faire défiler le patrimoine ou les curiosités folkloriques de tel ou tel texte, toute une sagesse humaine, toute une expérience humaine dont la littérature est le lieu, y compris pour ceux qui ne peuvent pas la lire d'emblée, mais qui ont découvert, je pense à mes lycéens du lycée professionnel de cet été, que dans Les Frères Karamazov, c'était passionnant, on a passé une demi-journée avec les acteurs, et les questions que les lycéens posaient autour de cette pièce, des questions, et voilà, ils ont fait une expérience forte, ils ont découvert que dans la littérature, qu'ils ont peut-être encore du mal à lire, et je ne suis pas sûr qu'ils lisent tout de suite Les Frères Karamazov, il y a des choses comme ça qui sont essentielles, nourrissantes pour l'activité humaine. Hein, et je pense que c'est peut-être ce rapport à la loi, je ne sais pas comment ça peut se faire, mais quand même laisser entendre dans l'impensé de notre enseignement à nos élèves que tous ces textes que nous lisons, ce n'est pas simplement pour donner des compétences de performance de lecteur extrêmement efficace dans sa compétence, mais que c'est aussi à orienter vers l'idée qu'à travers tout cela, il y a à se nourrir d'un certain nombre de lois humaines pour être plus humain, et c'est là où on reconnecte les questions morales que tu évoquais, et qui sont bonnes, et qui sont savoureuses, et qui sont belles. Hein, et sans doute y a-t-il, je crois que c'est un travail collectif que nous avons à faire, nous avons sans doute, nous aurions bénéfice à nous interroger sur ce qui s'entend dans ce que l'on donne à lire à nos élèves. Est-ce qu'on fait assez ce travail? Qu'est-ce qui s'entend et qu'est-ce que nos élèves entendent dans ce qu'on leur donne à lire? Alors, je fais souvent la boutade de dire, faisons attention, on leur donne à lire du Maupassant à tous les étages de notre... Voilà. Et du coup, les élèves, ils finissent par entendre ce que nous n'entendons pas toujours, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'entend pour eux dans ce que nous leur donnons à lire. Donc, faisons très attention à ce que nous leur donnons à lire et en ayant à cœur d'être attentifs à ce qu'ils vont entendre dans ce que nous leur donnons à lire, d'où peut-être la nécessité qu'il y a pour nous à chasser un peu l'aléatoire. Et j'ai, comme toi, feuilleté un certain nombre de manuels. Alors, certains sont très bons, mais j'ai vu parfois des groupements de textes ou des entrées du nouveau programme qui donnaient lieu à des regroupements un peu aléatoires. un peu fun, diraient mes enfants. Hein, c'est-à-dire pas désagréable, plaisant, avec des belles. Mais, et puis un questionnaire. Mais je me disais, au fond, pour les élèves, leur vraie vie est ailleurs. La monstruosité, ils ont à la négocier dans la vie réelle. Et puis nous, on va leur donner un petit groupement de texte sur des petits monstres qui n'engagent pas beaucoup. Hein. Et je pense qu'il faudrait que nous réussissions à travailler ensemble à partir de ces entrées existentielle, à réfléchir sereinement, sans évidemment se dire qu'on a une vérité à transmettre, mais quelles vérités humaines, quels sont les grands enjeux de sens que la discipline des lettres, qui ne va pas laisser ça à la seule philosophie, peut peut-être engager pour nourrir évidemment la réflexion de nos élèves. Donc là, il me semble qu'il y a un assez beau chantier qu'il faudrait que nous engagions. En tout cas, je crois que tu nous as vraiment donné cet après-midi beaucoup, beaucoup d'éléments pour être plus libre, finalement. C'est un petit peu ce que nous essayons toujours de faire à l'inspection générale, c'est de donner un maximum de liberté pour que vous ne fassiez pas ce que vous croyez faire, y compris le jour où l'inspecteur vient, et de sortir un peu des pratiques qui parfois se sont un peu fossilisées pour trouver peut-être d'autres manières d'appropriation des textes littéraires, de sortir effectivement du jeu classique, du texte questionnement, qui est quand même un peu limitatif, et d'avoir beaucoup d'audace et beaucoup de liberté pour essayer de réussir justement cette compétence de lecture dont on voit bien qu'elle ne peut pas être simplement que technique, même s'il faut que la performance de lecture s'améliore chez nos élèves, mais qu'elle soit aussi une occasion de faire d'eux des hommes et des femmes un peu plus humains. Voilà, donc merci.